Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Il fut le premier autocrate renversé par le printemps arabe. L'ancien président tunisien Ben Ali est mort aujourd'hui dans son exil saoudien. Ben Ali qui aura dirigé la Tunisie pendant 23 ans. Nous y reviendrons avec Nathanaël Charbonnier. Amazon espère atteindre la neutralité carbone en 2040. Son patron, Jeff Bezos, a présenté aujourd'hui son engagement pour le climat. Les explications de Grégory Phillips à Washington. En France, Jean-Luc Mélenchon dénonce un procès politique. Le patron des Insoumis est jugé depuis ce matin à Bobigny pour délit de rébellion. Procès suivi par Antoine Maret. Enfin, nous évoquerons la pénurie de médicaments en France avec notre invité, le sénateur centriste Jean-Pierre Decool, auteur d'un rapport sur la question. Sa chute fut la première victoire du printemps arabe. L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est mort aujourd'hui en Arabie Saoudite à l'âge de 83 ans. C'est là qu'il s'était réfugié après avoir été chassé du pouvoir en janvier 2011. En 1987, Ben Ali avait lui-même renversé le père de l'indépendance tunisienne, Habib Bourguiba, lors d'un véritable coup d'état médical. Commence alors un long règne autocratique de 23 ans, Nathanaël Charbonnier.
Oui, vous savez, pudiquement, on parle d'homme politique tunisien, mais l'histoire retiendra surtout que Ben Ali a été le dictateur qui a régné sur son pays d'une main de fer pendant 23 ans, de 87 à 2011. C'est un militaire de formation qui deviendra vite ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, avant de remplacer, pour des raisons médicales, vous l'avez dit, le président Bourguiba. Ben Ali est un homme fort et habile, qui sait charmer l'Occident. Il laisse par exemple une large place au rôle de la femme en Tunisie. En 93, les femmes sont autorisées à ne plus obéir à leur mari. Il rend aussi la Tunisie attractive économiquement, notamment avec le tourisme, mais ce dynamisme économique signera aussi sa perte, car Ben Ali a un problème, sa femme et sa famille. La famille Trabelsi qui va pomper les richesses du pays. Ben Ali et son clan resteront donc au pouvoir jusqu'en 2011, le 14 janvier exactement, et c'est un simple vendeur de fruits opprimé qui le fera tomber. Mohamed Bouazizi s'immolera par le feu et donnera le signal du printemps arabe. Mais jusqu'à la dernière minute, Ben Ali s'accrochera. Je vous propose d'écouter un extrait de sa dernière intervention publique où il se présente toujours comme le père de la nation.
J'ai passé plus de 50 ans de ma vie au service de la Tunisie, de l'armée nationale aux différents postes de responsabilité et 23 ans à la magistrature suprême. Chaque jour de ma vie a été et demeurera au service du pays. J'ai consenti des sacrifices, je n'ai jamais accepté un jour et je n'accepterai jamais l'effusion d'une seule goutte de sang des Tunisiens.
Un Ben Ali droit dans ses bottes, mais qui sera obligé de fuir. Il trouvera refuge en Arabie Saoudite et c'est là qu'il s'est éteint en ce 19 septembre 2019.
Nathanaël Charbonnier, merci. La mort de Ben Ali intervient au moment où la Tunisie attend son nouveau chef de l'État. On ne connaît toujours pas la date du deuxième tour de la présidentielle qui doit opposer l'universitaire Kais Saied à l'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement incarcéré. C'est toujours l'impasse politique en Israël. Deux jours après les législatives, Benjamin Netanyahou a proposé ce matin à son rival centriste Benny Gantz de former un gouvernement d'union nationale. Les deux hommes occupant à tour de rôle le poste de Premier ministre. Benny Gantz a répondu tout à l'heure qu'il voulait diriger seul le futur gouvernement israélien, auquel cas il accepterait une union entre son parti bleu-blanc et le Likoud de Netanyahou. Stratégie marketing ou engagement sincère, en tout cas Jeff Bezos a décidé de s'engager pour le climat. Le tout-puissant patron d'Amazon a présenté aujourd'hui à Washington son plan d'action pour verdir son entreprise. Objectif, le zéro émission carbone en 2040, soit 10 ans avant la date fixée par l'accord de Paris. Jeff Bezos qui espère que d'autres multinationales suivront l'exemple d'Amazon, Grégory Phillips.
You might recognize this. Jeff Bezos est entouré de deux écrans, avec dessus la planète Terre. Vue de l'espace, il faut la protéger, dit le milliardaire. Puis le fondateur d'Amazon dévoile donc cet engagement pour le climat. Nous devons repenser nos manières de travailler, dit-il, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2040. L'homme le plus riche du monde dit aussi qu'il va prendre son bâton de pèlerin pour convaincre les autres dirigeants de multinationales.
C'est vraiment quelque chose qui ne peut être fait en collaboration.
On ne peut arriver à cela qu'en collaborant avec les autres grandes entreprises. Et nous pensons qu'Amazon a un rôle de modèle, d'exemple, car pour nous, c'est un défi très difficile. Nous avons de très grandes infrastructures. On livre plus de 10 milliards de paquets chaque année. Alors si nous, on atteint cet objectif, tout le monde peut y arriver.
Bezos annonce aussi qu'Amazon a passé commande de 100 000 camions électriques pour les livraisons. Les premiers circuleront en 2021. Le milliardaire dit comprendre ses employés qui, demain à Seattle, manifesteront pour le climat, la toute première grève au siège d'Amazon. Bezos enfin est persuadé que les entreprises ont un rôle à jouer contre le réchauffement climatique et il refuse de commenter le choix de Trump d'avoir quitté les accords de Paris.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis, et effectivement, Jeff Bezos a présenté sa feuille de route écologique à la veille d'une grève mondiale pour le climat. De nombreuses actions sont prévues demain en Amérique du Nord comme en Europe, et cela à 3 jours du sommet climat organisé à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'événement est inédit. Jean-Luc Mélenchon sur le banc des prévenus d'un tribunal correctionnel. Le procès du patron des Insoumis et de 5 de ses proches s'est ouvert ce matin à Bobigny. Ils sont poursuivis pour rébellion lors des perquisitions du 16 octobre 2018 au siège du parti, mais aussi au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Antoine Marette, vous suivez ce procès pour France Culture. Cette première journée a été marquée par l'audition musclée de l'ancien candidat à la présidentielle.
2h30 d'audition pendant lesquelles Jean-Luc Mélenchon ne regrette rien et semble avoir réponse à tout. Pourquoi crie-t-il dès le début de son arrivée sur le lieu de la perquisition? Parce qu'il a été réveillé par une précédente perquisition à son domicile à 7h du matin. Il est dans un état de sidération. Il évoque un extraordinaire sentiment d'humiliation. Je parle fort car j'ai toujours parlé fort. J'ai crié, donc je suis coupable. Mais coupable de quoi? Et puis un peu gêné, il ajoute, je suis malentendu. Et en cas de vacarme, je ne distingue plus ce que disent les uns et les autres. Vous m'entendez ? Ironise Éric Dupond-Moretti, qui donne ainsi le ton du face-à-face entre les deux tribuns. Monsieur Mélenchon, on va vous accorder la présomption d'innocence dans les deux affaires à l'origine des perquisitions. Vous êtes trop bon, répond le leader de la France insoumise. Non, c'est la loi, rétorque l'avocat, qui tente de recentrer le débat sur l'intimidation et la rébellion. Il lui demande s'il a l'intention de présenter ses excuses aux deux parties civiles qu'il représente. Réponse ironique de Jean-Luc Mélenchon, qui se tourne vers le policier, le gendarme. Je regrette profondément de vous avoir occasionné 7 jours d'arrêt maladie par mes décibels. Vous présentez vos excuses pour les décibels, mais il y a aussi les mots, rétorque l'avocat. Et les mots, le député les assume tous, mais il semble plus mal à l'aise quand le procureur lui demande pourquoi il a poussé violemment un fonctionnaire d'autorité. J'ai eu une attitude normale que j'ai estimée politiquement nécessaire. J'ai adapté mon comportement. Il dénonce une perquisition politique et un procès politique, met en cause la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Quant à la phrase devenue célèbre « Ma personne est sacrée », il déclare « Le plus terrible, c'est que je le pense ».
Antoine Namaret, merci. Le procès de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis se poursuit demain avec le réquisitoire du procureur et les plaidoiries de la défense. Le gouvernement annonce ce soir des mesures pour lutter contre la pénurie de médicaments en France. Les laboratoires qui n'anticipent pas ces pénuries feront l'objet de sanctions renforcées, pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. La mesure sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. On en parle avec l'invité de ce journal, Jean-Pierre Decool, sénateur centriste du Nord, auteur l'an dernier d'un rapport sénatorial sur la pénurie de médicaments en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Decool, quels sont les médicaments concernés par cette pénurie?
Des médicaments qu'on peut appeler matures, donc qui sont efficaces, mais qui ne coûtent pas cher parfois, et que on retire du marché pour des raisons économiques, on dira économiques, alors qu'on devrait de temps en temps avoir une posture plutôt de respect d'une éthique quand on parle santé, des anticancéreux, des corticoïdes. Les corticoïdes, eh bien, sont régulièrement en rupture. En gros, les ruptures de médicaments ont été multipliées par 10 entre 2008 et 2014, et aujourd'hui, on a plus ou moins 500 médicaments qui sont régulièrement en rupture.
Quand on parle de rupture, ce sont des ruptures localisées ou bien on parle de rupture au niveau national?
Alors, je pense déjà, il faut replacer tout ça dans un contexte. Le problème des pénuries de médicaments, c'est pas seulement national. Et s'il y avait des remédiations à faire, elles le seraient au niveau européen. Mais On peut être en rupture par manque de matières premières, par médicaments pour lesquels il est difficile de respecter les normes, ou par tout simplement par les produits qui n'ont pas été fabriqués et qui ne sont plus sur le marché aujourd'hui.
Jean-Pierre Decolle, est-ce que cette pénurie a pu avoir des conséquences fatales dans certains cas, avec le décès d'un patient faute de traitement ?
Alors, les pénuries ont toujours des conséquences fatales. Ça crée déjà un climat d'inquiétude chez les patients, puisque le patient, eh bien, s'inquiète de ne pas avoir sa médication, ne serait-ce que dans la présentation, et puis il y a assurément des séquelles graves pour les patients.
Vous voulez dire, Jean-Pierre Decolle, que la France, finalement, ne produit plus assez de médicaments ?
La France ne produit plus assez, oserais-je même dire l'Europe, parce que je crois que la solution passera aussi par l'Europe. Alors, le premier constat, c'est que les pays d'Asie du Sud-Est qui ont des normes différentes, qui ont de la main-d'œuvre à bon marché, eh bien, sont très très compétitifs sur le marché. Et je crois que certains médicaments, ne rapportant plus assez en France, eh bien, on les fabrique dans ces pays étrangers. C'est gravissime, il faut essayer de faire revenir de l'entreprise pharmaceutique dans notre pays et en Europe. Hein. D'ailleurs, j'ai interpellé les députés européens sur ce sujet.
C'est donc une logique économique qui fait que la production de médicaments aujourd'hui est moins chère en Chine et en Inde.
Ben, je me suis toujours demandé si aujourd'hui la santé était encore publique. Et on est probablement régi par une logique spéculative et économique plutôt qu'à une éthique de santé publique.
Pour vous, il faut relocaliser la production de médicaments en France et en Europe ?
Il faut viser à la relocaliser, mais ça implique probablement des mesures d'incitation fiscale, des mises en œuvre de formation, parce que on ne s'improvise pas du jour au lendemain pour recréer de la production pharmaceutique. Sachons aussi, il faut qu'on y réfléchisse, dans notre pays, on a aussi de la production publique. Savez-vous que les hôpitaux de Paris et la pharmacie des armées, eh bien, a aussi son unité de production publique. Alors, naturellement, il n'est pas question de dire du jour au lendemain, eh bien, on doit se fournir en production publique, mais ça doit être mis sur la table et faire partie des propositions de relocalisation dans notre pays et en Europe, hein, je dis bien, et en Europe par des grands groupes pour essayer de mieux juguler cette problématique de rupture.
Vous évoquiez aussi dans votre rapport la constitution d'une sorte de réserve nationale de médicaments.
Oui, absolument. Ça peut s'organiser. On a proposé dans le rapport, c'est dans cet esprit, que sous l'autorité du Premier ministre, on puisse faire une plateforme pour qu'on se dise les choses et que les professionnels de santé puissent échanger, par exemple. Et ça doit aussi être accompagné, ces propositions d'organisation avec des décisions législatives. Savez-vous qu'aujourd'hui, des pharmaciens, eh bien, s'ils n'ont pas le médicament prescrit par le médecin, ne peuvent pas, de leur autorité, en prescrire un autre. Il faut qu'ils appellent le médecin qui leur indique l'autre médicament qu'ils mettront. Imaginons que le médecin est en vacances, donc laissons les pharmaciens eh bien, pouvoir substituer un médicament. Les pharmaciens ne peuvent même pas se vendre des médicaments entre eux, donc ils font du troc aujourd'hui. Ils le font bien parce que c'est l'intérêt de leurs patients. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, un pharmacien passe environ 35-40 minutes par jour à essayer de régler ses problèmes de rupture. On ne peut pas continuer comme ça.
Jean-Pierre Decolle, sénateur du Nord, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Nouveau coup dur pour le transport aérien français. La compagnie XL Airways est en cessation de paiement. Elle a demandé aujourd'hui son placement en redressement judiciaire. XL Airways est basée à Roissy-Charles de Gaulle. La compagnie emploie 570 collaborateurs et transporte chaque année près de 700 000 passagers sur les quatre continents. Il y a trois semaines, c'est une autre compagnie française, Aigle Azur, qui avait eu recours à la même procédure du redressement judiciaire. Aigle Azur qui n'a toujours pas de repreneur. Air France, c'est le groupe Dubreuil, la maison mère d'Air Caraïbes, ont retiré aujourd'hui leur offre respective. Le cinéma français en deuil, l'acteur Charles Gérard est mort cet après-midi dans un hôpital parisien. Il avait 96 ans. Charles Gérard était un ami proche de Jean-Paul Belmondo. C'était surtout le second rôle fétiche de Claude Lelouch. Le temps demain restera globalement très ensoleillé, sauf sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes où les nuages seront nombreux. Quelques averses possibles, surtout sur les reliefs. Les températures minimales très contrastées, de 3 à 19 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre grimpera de 19 à 32 degrés de la Manche au sud-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.